Bonsoir à tous. Depuis plus de deux semaines, des affrontements opposent les insurgés fidèles à Laurent Kunda à l'armée régulière. Nous parlions hier de combats qui ont eu lieu le week-end dernier dans les collines autour de Saké, à 30 km au sud de Goma. Donc, malgré qu'il soit sous mandat d'arrêt international et déchu de l'armée congolaise depuis l'année dernière, Laurent Kunda est resté actif sur le territoire congolais. En ce début de Troisième République, des voix s'élèvent de plus en plus pour proposer une solution à l'instabilité créée par la présence de l'ex-général et de ses hommes, les uns pour en finir militairement et les autres pour une option négociée. Bien évidemment, vos réactions sont aussi nombreuses à ces sujets. Kambale de Butembo, Blanchard, Bukwala, Mbandaka et Onokumba Lenga de Bukavu disent presque la même chose. Pour eux, le gouvernement congolais ne doit pas négocier avec Kunda car ce dernier est un criminel. Hendrik Kayembe de Kananga pense que la force n'aboutira qu'à des accalmies momentanées. Et Antoine Makanjila Mouya de Kisangani, pour lui, les négociations apparaissent parfois comme des indices de faiblesse pour les FRDC. Fabrice Toula de Ocha au sud Kivu dit ceci, le sang des Congolais a trop coulé, trop c'est trop, que le gouvernement négocie avec Kunda, c'est l'unique solution. C'est ce qu'il dit. Index à Kananga pense que parler aujourd'hui d'une solution politique est une haute trahison vis-à-vis du peuple congolais. Alors pour analyser vos opinions et répondre à vos questions dans ces studios, Jacques Ebenga, expert militaire et colonel à la retraite, et depuis Lubumbashi, au téléphone nous aurons Philippe Bioya, analyste politique et professeur des relations internationales à l'université de Lubumbashi. Si vous avez d'autres opinions ou d'autres questions, elles sont toujours les bienvenues.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans Dialogue entre Congolais. Bienvenue à Jacques Ebenga, expert militaire. Bienvenue aussi au professeur Bioya, vous aussi nos invités. Bonsoir.
Bonsoir, merci.
Alors, plusieurs solutions ont été proposées pour mettre fin à la crise provoquée depuis le 24 novembre dernier par les affrontements entre l'armée nationale et les troupes restées fidèles au général déchu Laurent Kunda. Parmi lesquelles la solution militaire telle qu'utilisée actuellement par le gouvernement. Il y a aussi la solution politique prônée par certains partis politiques, dont le RCD du vice-président Xavier Soubirous, mais aussi une combinaison d'une solution à la fois militaire et politique, selon le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Marie Guénon. Alors Claude Kianza nous en fait le point.
Concernant la solution militaire utilisée par le gouvernement congolais, elle n'a pas encore produit les résultats escomptés sur le terrain, car les hommes de Kunda continuent d'occuper certaines localités malgré les assauts menés par l'armée nationale. En même temps qu'une solution militaire, le gouvernement congolais n'a toutefois pas rompu le contact avec Laurent Kunda. Pour preuve, au lendemain des affrontements, le ministre de l'Intérieur, Denis Kaloumé, lui-même sur place à Goma, avait envoyé auprès du général déchu une mission du Barça intercommunautaire du Nord Kivu. Objectif, lui déposer un message du gouvernement. Message qui demandait à Laurent Kunda de cesser les hostilités, présenter son cahier de charge et celui de ses hommes et laisser ses hommes aller au brassage. Malgré qu'il fut empêché par la population et l'armée de rencontrer le général déchu, le Barça intercommunautaire du Nord Kivu rencontra finalement Laurent Kunda et le message du gouvernement lui fut remis. Par contre, le RCD d'Azarias Roubérois n'a cessé de prôner une solution politique, c'est-à-dire à travers un dialogue avec Laurent Kunda. Dans sa dernière visite auprès du président Sassou Nguesso, président en exercice de l'Union africaine, le vice-président Azarias Roubérois déclarait que chercher à résoudre ce problème par la force serait une erreur stratégique. Pour le vice-président Roubérois, il fallait tenir compte des revendications de Kunda et de ses hommes. Pour les Nations Unies, il faudrait utiliser deux moyens de pression, politique et militaire. Selon le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, M. Jean-Marie Guénon, la combinaison de l'action militaire de la MONUC et des discussions politiques devrait continuer, car il est inacceptable, selon lui, qu'il y ait dans le pays un chef de guerre qui puisse défier les autorités et l'ordre public. Pour rappel, c'est depuis le vendredi 2 septembre 2005, au cours d'un conseil de ministres, que le gouvernement congolais avait déchu Laurent Kunda de son grade de général au sein de l'armée nationale. Par la même occasion, il avait décidé d'entamer des procédures judiciaires contre lui. Et c'est 5 jours plus tard, c'est-à-dire le 7 septembre 2005, qu'un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui.
Alors, on a entendu Claude Kianza qui parlait aussi de l'initiative des communautés locales qui avait rencontré Laurent Kunda, bien sûr envoyé par le gouvernement congolais. Le Baraza Lawazé, comme on l'appelle, cette structure qui regroupe plusieurs communautés du Nord Kivu, privilégie aujourd'hui l'option militaire. Interrogé ce soir par Babel Pongo, Désiré Bouyana, le secrétaire du Barza, estime que les revendications posées par le général déchu montrent une mauvaise voie et que l'option militaire est la meilleure.
Laurent Kunda n'a cessé de donner des préalables comme il l'a toujours fait. Parmi les préalables qu'il a donné, il y a les retours de réfugiés qui sont prétendus être au Rwanda. Il y a la libre circulation de ces frères sans être inquiétés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y a le retrait du mandat d'arrêt international qui pèse lourdement sur sa personne et demander aux FARDC de rester dans leur position sans porter préjudice ni hostilité à ses militaires à lui.
Est-ce que c'est parce que votre démarche de négociation n'a pas marché que vous envisagez aujourd'hui une solution uniquement militaire?
Non, la population actuellement ne veut plus à ce qu'il y ait une solution négociée avec Laurent Kunda. Puisqu'en voyant tout ce que Laurent Kunda est en train de perpétrer auprès de la paisible population, personne ne peut accepter à ce qu'on négocie encore avec Laurent Kunda et qu'on l'élève encore au rang de général, et qu'on les donne encore des postes de récompense.
Mais est-ce que votre position est celle de toutes les communautés qui sont au sein du Baraza?
Les communautés qui sont au sein du Baraza, la position est la même. Mais cependant, il y a des individus. Celui qui peut aller à la contre de cette position, ça doit être un individu, mais ce n'est pas une communauté. Puisque c'est que Laurent Kunda est en train de faire à partir du territoire qu'il occupe, ce n'est pas de saveur seulement de quelques communautés, c'est pour toutes les communautés. Les hostilités atteignent toutes les communautés du Nord Kivu et par conséquent, toutes les communautés sont unanimement d'accord à ce que la position militaire soit utilisée pour mettre Laurent Kunda hors d'état de nuire une fois pour toutes.
Voilà. C'était M. Bouyana, qui est secrétaire du Barza intercommunautaire du Nord Kivu. Alors hier, nous parlions aussi des offensives des FARDC avec le vice-ministre de la Défense en charge de l'intégration, M. Bernard Mena, qui a annoncé que l'armée congolaise comptait lancer des opérations d'envergure sur Laurent Kunda. Colonel Ebenga, c'est une solution?
C'est la solution ultime à laquelle on doit recourir. Quand on a tenté depuis un an à résoudre la question par les voies politiques et que on a confié au Barza des Oisés, ça veut dire le Barza des sages, non, des anciens, des gens crédibles qui ont tenté une médiation et que M. Kunda leur a opposé des conditions inacceptables pour un État, qui sont celles qu'on vient d'énumérer, on peut considérer que la solution politique jusqu'ici a échoué. La solution militaire, quelqu'un a dit que celle-là aussi ne s'est pas montrée efficace. Mais est-ce qu'on a imaginé d'autres alternatives que celles au type d'opération qui ont été menées jusqu'ici? Je sais que M. Kunda, enfin les troupes de M. Kunda sont positionnées sur des hauteurs, comme nous disait hier le vice-ministre de la Défense, et que de ces positions-là, ils ont un avantage sur les troupes d'infanterie qui sont cantonnées dans les vallées. Mais faut-il pas justement réviser l'approche tactique, justement pour aller à l'encontre de ces troupes-là, là où elles sont?
Vous proposez une révision tactique pour aboutir vraiment à des résultats avec cette solution militaire?
Absolument, absolument. Et ça, c'est je crois que l'état-major doit concevoir cela. Autrement, nos troupes seront la cible de l'ennemi qui est perché sur les montagnes. Donc, il faut déloger l'ennemi là où il est perché. Et cela nécessite un déploiement différent et une approche tactique différente.
Et quand vous parlez d'un déploiement différent, c'est-à-dire que les brigades qui sont là et qui ont par exemple lancé l'offensive du week-end dernier devraient être remplacées par d'autres?
Non, j'entends pas. Il ne s'agit pas de remplacement d'hommes, mais il s'agit de remplacement, de changement d'approche, de tactique. C'est-à-dire concrètement quoi? Il s'agit de mener des petites opérations commando hein, qui vont frapper l'ennemi là où il est situé. Il ne s'agit pas d'emmener des brigades entières, des bataillons entiers aller à l'assaut de ces compagnies, de ces positions, mais des petites unités qui opéraient de manière dissuasive, de manière très chirurgicale, comme on dirait, sur les unités perchées sur les montagnes. Donc il faut une guerre de guérilla contre une autre guerre de guérilla, en quelque sorte.
Alors, dans les offensives du week-end dernier, lancées par l'armée irrégulière, les résultats n'ont pas été ceux attendus. La localité de Runyoni, par exemple, est restée entre les mains des insurgés. Il y a Jean-Claude Mutombo à Kananga qui demande qu'est-ce qui fait que les FRDC paraissent faibles devant Kunda. Vous avez évoqué la hauteur, évoquée aussi par le vice-ministre hier, mais est-ce que c'est la seule difficulté que rencontre aujourd'hui les FRDC?
Bon, je crois que les FRDC qui sont déployés sur place ont une logistique suffisante. Je n'ai pas entendu parler de défense logistique, d'autant plus que ces unités de FRDC sont appuyées par la MONUC. La motivation semble y être également parce qu'ils ont quand même mené des combats très, très rudes. On a vu qu'ils ont pris certaines localités, qu'ils ont perdu peut-être par la suite, mais ils ont été, je crois, très vaillants au combat. Mais il s'agit de réviser maintenant l'approche, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça c'est ce que j'ai dit, il faudrait repenser toute l'approche tactique pour aller à l'encontre d'un ennemi qui leur oppose une guerre de guérilla.
Alors on voit que Laurent Kunda et ses hommes sont en train de défier un peu ce début de Troisième République. Vous croyez qu'en révisant les tactiques, on pourrait arriver à une solution dans moins de temps, dans moins de 6 mois par exemple?
Bah, écoutez, M. Kunda n'a quand même pas une armée aussi nombreuse qu'elle n'en donne l'air.
Le vice-ministre nous parlait hier de 5000 hommes.
5000 hommes, ok. Il a une brigade à sa disposition, mais nous pouvons déployer plus. Nous pouvons déployer plus de moyens, notamment des hélicoptères de combat, qui peuvent le déloger là où il est perché sur les montagnes, et le conduire ainsi à accepter une sorte de reddition qui lui permettra d'être sauf, mais d'aller quand même en justice, comme il doit s'y attendre.
Alors, nous vous le disions en début d'émission, nous avons en ligne depuis Lubumbashi le professeur Philippe Bioya. Professeur, vous avez écouté le colonel Ebenga. Vous penchez aussi pour une solution militaire avec une révision des stratégies?
Merci Georges. Ce qui me frappe dans ce débat, c'est que l'impression que cela donne, c'est qu'on est déjà engagé dans une guerre. Moi, je pensais que nous étions, en fait, dans une situation où l'armée nationale était en train, en fait, d'obliger quelqu'un à rentrer dans les ordres. Mais si on est engagé, vraiment, comme j'ai l'impression de le sentir, dans une guerre, alors là, je pense que moi, je ne veux pas dire s'il faut continuer, il ne faut pas continuer, parce que, logiquement, il faut continuer, parce qu'on ne peut pas commencer une guerre pour que cela n'aboutisse pas. Mais je suis en train de craindre que finalement, soit que la guerre en question ne devienne, il y ait un prétexte pour Laurent Kunda de se crédibiliser autrement, parce que si ça devient un piège pour notre armée, et si l'armée s'emboule ou s'il y a un enlisement, si ça dure longtemps, je crois que ça dure longtemps, les bénéfices que le bénéfice politique que cette opération pourra en fait procurer serait vraiment minime, et je crois qu'on pourra peut-être au niveau de l'opinion les regretter. On doit donc en fait éviter dans cette épreuve de perdre la face et de considérer effectivement le problème, me semble-t-il, dans sa complexité régionale, me semble-t-il, parce que la guerre, c'est pas Jacques qui me contredirait, on la fait jamais seul. Parce que si on ne fait jamais seul, nous sommes avec la MONUC, la question qu'il faut poser, est-ce que Kunda est seulement seul avec ses partisans, ses milices, ou s'il ne bénéficie pas en fait des aides? Parce que s'il bénéficie des aides, ou s'il est bien suffisamment armé, si nous décidons que les hélicos interviennent, et si lui il a par exemple des stingers, s'il a des missiles pour abattre nos hélicos, je crois que la situation risque de se retourner et en sa faveur, et ce qui ne serait peut-être pas acceptable. Alors, je pense que déjà lorsque vous avez parlé de la position que le général Kaloumé avait fait connaître à un moment, j'ai un tout petit peu piqué, parce que dans cette position, on ne sent pas exactement la fermeté et la condamnation. Parce que si on ne peut pas demander à quelqu'un de présenter des cahiers de charges et de laisser ce milice en fait être brassé, et lui faire la guerre. Parce qu'on est là pratiquement en position de compréhension de son attitude, et c'est comme on le prend pour un interlocuteur, donc c'est quelqu'un avec lequel on voudrait en fait négocier. Alors là,
c'est vraiment contradictoire. Vous avez raison, Philippe. Vous avez raison.
Professeur Philippe Bioya, il y a un auditeur qui nous disait tout de suite que l'action militaire a arrivé à faire valoir les faiblesses des FARDC. Est-ce que c'est pour ça que vous craignez, vous, une solution militaire?
Non, moi je ne pense, non, je ne voudrais, effectivement, il faut vraiment pas que dans cette épreuve, le FARDC en sorte un peu affaibli. Parce que ça ne serait pas bon à la fois pour l'armée et ça ne serait pas bon pour aussi le pouvoir. Parce que je pense que nous assistons là à une sorte de répétition de l'histoire. Ce n'est pas la première fois que l'Est, la République, trouve en fait le pouvoir à Kinshasa. Mais on a vu ça dans les années d'avènement de nouveaux tours au pouvoir. Il y avait un double défi. Il y avait le défi, en fait, des réfugiés qui revenaient avec des mercenaires et consorts qui a été réglé diplomatiquement avec la création de la CPGL. Mais il y avait un défi qui est resté longtemps, qui n'avait jamais été relevé, le défi de Laurent Désiré Kabila, toujours là-bas, à Sisi Baraka. On a tenté, Maël est parti plusieurs fois, on a envoyé des commandos, et le fait qu'on n'a pas réussi à déloger Kabila, et les tentatives de négociation n'ont pas porté, et on sait ce qui est avéré. Mais je pense que le pouvoir démocratiquement élu ne doit pas faire le luxe, en fait, de paraître faible dans sa capacité d'assurer l'intégrité du territoire.
Alors, il y a
le... par un des anciens membres.
Il y a le colonel Ebenga qui voulait...
Il y a un besoin de consolidation et de rassurance. Il doit rassurer d'abord les électeurs de l'Est qui ont élu essentiellement pour les besoins de sécurité et il doit faire preuve de fermeté. Mais le problème là, c'est qui me chiffonne un peu, c'est la position des GNO. Parce que j'ai l'impression que la FARDC ne peut rien faire sans le concours de la MONUC.
Alors, nous allons revenir à vous, professeur Bioya. Il y a colonel Ebenga qui voulait réagir. Donc, il y a un défi depuis toujours dans l'Est. Est-ce qu'il peut vraiment être relevé avec l'option militaire?
Ben, vous savez, mon ami Philippe Bioya a évoqué avec raison qu'il faut prendre des précautions. Mais n'y a-t-il pas un défi permanent à l'autorité de l'État, à l'autorité, à l'armée même, le défi du fait que M. Kunda continue à gérer un territoire? C'est déjà un défi. Est-ce que l'armée va-t-il perdre la face parce qu'il aura tenté de conquérir ce territoire et qu'il aurait eu des difficultés, plutôt que de laisser ce territoire dans les mains d'un insurgé? Voilà un défi majeur qui est celui de reconquérir un territoire aux mains des insurgés. Donc je pense que, évidemment, il faut chercher à marier l'ensemble, mais je crois que, chronologiquement parlant, la solution politique a montré ses limites, à mon avis. Le Barza communautaire, vous venez d'entendre l'un de ses sages qui a dit que ils ont tout tenté, et maintenant ils sont exaspérés par les exigences de monsieur Kunda, qui se constitue là-bas en autorité publique.
Oui, mais ce qu'on a demandé aussi que les positions des FARDC puissent garder leur position.
Parce qu'il considère qu'il est dans une sorte de principauté à lui là-bas, ou d'autorité autonome, et que chacun reste dans ses positions. Or, c'est un territoire congolais qui doit être intégralement contrôlé par l'État congolais. Et par conséquent, ce qu'il demande n'est pas admissible par l'État congolais. L'intégrité du territoire suppose que tout territoire du Kourou, y compris celui sur lequel il est implanté, revienne à l'autorité de l'État, soit contrôlé par l'État. Si on accède à une telle demande, ça veut dire qu'on renonce à la souveraineté de l'État sur une partie du territoire. Et ça, c'est un défi majeur à l'État et que l'État ne devrait jamais s'humilier à accepter.
Alors, professeur Philippe Bioya, nous allons vous retrouver, bien sûr, nous allons retrouver aussi le colonel Ebenga, mais avant, nous recevons Aimé CA qui a quelques opinions des auditeurs et nous allons voir ce que nos auditeurs en pensent.
Oui,
bonsoir, Aimé.
Bonsoir, Georges Kamjova. Nous avons d'abord une première série de réactions des auditeurs, notamment ceux qui sont contre les négociations. Il y a par exemple Eric qui est à Kiria de Goma, au Nord Kivu. Il demande s'il y a des règles de jeu qui sont déjà mises en œuvre par ceux qui soutiennent les négociations avec Kunda pour que cette négociation réussisse. Il trouve pour sa part que négocier avec Kunda, qui est un criminel de droit international, c'est favoriser l'impunité. Bertin Nyandou, depuis Mutshibwe, au sud Kivu, pense que envisager une solution politique, c'est vouloir montrer au peuple congolais combien le gouvernement de la Troisième République sera faible dans l'exécution des décisions qu'il prendra. Mati Chunza Ambujimai au Kasaï oriental demande au président de la République de mettre fin à l'aventure de Kunda et ses acolytes à l'Est en exécutant les mesures qui s'imposent car le Congo a une armée. Négocier avec Kunda, c'est prolonger la récréation qui a pris fin lors de l'investiture du chef de l'État élu. Winda, depuis Kisangani dans la province orientale, pense que engager une négociation avec Kunda est une autre récréation. Nene Alboumbashi au Katanga trouve que la paix s'acquiert. Il faut donc déployer la force pour déloger ses ennemis de la paix. Fini la récréation, il y a une armée en RDC, dit-il. Papi Ngandu Abunya dans la province orientale dit que chaque chose a son temps. Le gouvernement doit dire non en majuscule aux négociations avec Laurent Kunda. Voilà.
Alors merci beaucoup MSCA. Avant de retrouver Jacques Ebenga et Philippe Bioya, on va aller à Goma, disons dans le Nord Kivu, où se passent même les affrontements. Vous savez que c'est depuis bientôt 3 semaines que ces affrontements ont lieu. Alors, comment vivent les populations? Quelles en sont déjà les conséquences? Nadine Foula a joint ce soir à Goma notre confrère Jules Ngala, qui suit également ces événements. Je vous propose de suivre leur entretien.
Bonsoir Jules Ngala Wamona.
Bonsoir Nadine Foula.
Alors Jules, vous suivez chaque jour la situation des affrontements entre l'armée régulière et des soldats insurgés fidèles à Laurent Kunda. Quelles en sont les conséquences sur la vie de la population?
Bon, les populations vivent 3 types de conséquences pour ces hostilités. D'abord sur le plan de la santé, les informations à notre possession font état d'énormes difficultés de fonctionnement pour différents centres de santé installés dans le territoire de Masisi. Et cela parce que d'abord une importante partie du personnel a quitté Masisi pour trouver refuge à Goma, craignant pour sa propre sécurité. C'est le cas notamment de l'hôpital de référence de Mweso, où tout le personnel essentiel est à Goma. Ensuite, à l'hôpital de Kichanga par exemple, le médecin directeur affirme qu'il se voit obligé de détruire des milliers de doses de vaccins à cause des difficultés de conservation, étant déjà à court de carburant pour faire fonctionner le frigo à pétrole. Il nous a affirmé même avoir opéré, pas plus tard qu'hier, un cas de hernie, et cela à la lueur de la lampe torche. Il y a aussi des conséquences sur le plan économique, lesquelles se traduisent essentiellement par des difficultés d'approvisionnement en produits de première nécessité, notamment pour le territoire de Masisi, où plusieurs produits de première nécessité deviennent invisibles. C'est notamment le cas du sel, du sucre, du savon, du pétrole et bien d'autres produits. Et avec la rareté, les prix de ces produits avaient même triplé avant de les voir disparaître complètement du marché.
Dites-nous Jules, est-ce que le véhicule des trafiquants ont libre circulation à Masisi?
Bon, actuellement, la situation est telle qu'aucun véhicule n'a toujours franchi ça que pour aller à Masisi, du moins dans le cadre des informations que nous avons. Les commerçants déclarent que non seulement il y a une fouille déconcertante et même prohibitive au niveau de la barrière installée par les FARDC à Sake, à 27 km de Goma, mais aussi, disent-ils, les hommes de Nkunda, de leur côté, refusent que des véhicules pénètrent dans leur zone sans marchandises à bord.
Jules, les affrontements de ces derniers temps ont-ils des conséquences sur le plan de relations entre les communautés du Nord Kivu? Est-ce que les Hunde, les Nyanga, les Tembo, les Kano, les Nande, les Hutu et les Tutsi vivent toujours en harmonie?
Bon, écoutez, jusque-là, on note un silence chez les 9 communautés autochtones du Nord Kivu, mais les analystes estiment que c'est justement ce silence qui est dangereux pour le cas d'espèce. Une ONG régionale qu'on appelle ici Pole Institute et qui est spécialisée dans les analyses socio-économiques des événements de la région a même organisé la semaine dernière toute une journée de réflexion sur les clivages survenus entre les communautés, et cela à cause des affrontements de Masisi. Je vous propose de suivre à ce sujet Monsieur Onesfor Sematumba, qui est chargé de la communication au sein de Pole Institute.
Nous avons constaté qu'il y avait une certaine tension entre les différentes communautés ethniques de la province, tensions qui sont dues notamment à ce qu'il est maintenant convenu d'appeler le phénomène Laurent Kunda. Mais de façon plus générale, nous avons constaté que chaque fois qu'il y avait une poussée de fièvre quelque part dans cette province, la tendance est que les communautés cessent de se parler ou parlent, mais sans vraiment se parler. Donc c'était le constat de départ. Nous nous disons, attention, s'il y a des problèmes politiques, s'il y a des problèmes militaires, ne confondons pas les animateurs, qui qu'ils soient, avec leur communauté d'origine.
Merci Jules Ngalawamona et bonne soirée à Goma.
Merci à vous aussi.
Voilà, nous venons de suivre Jules Ngala, les conséquences sur le fonctionnement des services de santé, des retombées sur la vie économique et des craintes sur les relations entre communautés. Colonel Ebenga, est-ce que ce ne sont pas ces conséquences sur les populations qui justifient une solution pacifique, politique?
Mais ce n'est pas la solution militaire qui a imposé cette situation. C'est M. Kunda qui a créé un État à lui. Vous avez entendu là-bas qu'il interdit aux camions d'entrer ou quand les camions entrent chargés, il les dévalise. Donc ce n'est pas le fait de la guerre qui viendrait des FARDC, mais c'est le fait de vouloir constituer un territoire autonome avec un système de sécurité autonome qui ne laisse pas infiltrer les biens de première consommation et qui ne permet pas à la population de commercialiser ses biens en dehors de ce territoire. Donc c'est plutôt le fait de M. Kunda que celui de la guerre qui viendrait des FARDC. Donc je pense que si M. Kunda aime cette population, comme il voudrait bien le dire, comme il le dit, il faut bien laisser cette population commercialiser librement, c'est bien avec les populations voisines, pour que le revenu suffisant soit apporté à la population pour acheter ce dont elle a besoin.
Alors, professeur Bioya, vous avez suivi, colonel Ebenga, vous avez suivi aussi les conséquences, les retombées de tout ce conflit sur les populations. Vous avez également suivi les réactions de nos auditeurs qui sont contre une négociation, disons dans la première vague. Et nous avons menacé Kassimbira depuis les États-Unis qui dit « Le gouvernement congolais doit en finir avec le problème de Laurent Kunda maintenant et ne pas lui donner le temps de se réorganiser ». Un peu comme disait le colonel Ebenga. Qu'est-ce que vous répondez, professeur Philippe Bioya?
Merci, Georges. Moi, je dis que la première difficulté dans la situation-là, c'est la nature même de la guerre. Je pense avoir dit que si l'on ne comprend pas ce qu'implique une guerre, l'on ne comprendra pas en fait quelles solutions il faut envisager. Parce que la guerre que l'on mène maintenant, parce qu'il faut l'appeler ainsi, c'est une guerre qu'on appelle aujourd'hui la guerre asymétrique. Parce que c'est une guerre qui se mène entre un gouvernement et un individu qui a des milices. C'est exactement un peu comme la lutte contre le terrorisme là. Alors, ces guerres, la guerre asymétrique, c'est une guerre éprouvante, c'est une guerre à beaucoup de risques. Et ces guerres, on les gagne que, en fait, par une économie et d'une démarche diplomatico-stratégique qui serait, dans ce cas, régionale. Et je pense qu'il y a, peut-être pas vis-à-vis de Kunda, mais il y a un effort diplomatico-stratégique de la part du gouvernement au niveau des pays voisins qui pourraient être concernés indirectement ou directement dans cette affaire pour effectivement obtenir que la MONUC qui aide les FARDC prenne un engagement ferme. Parce que l'absence d'engagement ferme de la MONUC autour des FARDC peut être dictée par la lecture qu'ils font des incidences diplomatico-stratégiques.
Alors, professeur Bioya, dans les derniers affrontements, professeur Bioya, on a vu la MONUC, par exemple, s'engager et même participer, aller même récupérer certaines localités du côté des FARDC. Vous parlez de quel engagement maintenant? Militaire ou seulement diplomatique?
Oui, l'engagement militaire, vous savez, la MONUC, c'est l'organisation des Nations Unies, ses troupes sont ici et dans le cadre du maintien de la paix pour nous soutenir à 100% jusqu'à aller à la fin de la guerre. Ils ont besoin en fait des directives qui viennent de New York. Alors que vous dites que GMO demande que la logique militaire combine avec la logique politique, je veux savoir que de ce côté des Nations Unies, nous avons un effort à faire pour en fait clarifier en fait la situation de manière à ce que l'engagement de l'harmonie soit total et que l'on ne soit pas en présence d'une situation de guerre, mais que l'on soit en situation d'une répression, par exemple, d'une mairie ou d'une rébellion quelconque de quelqu'un en fait qui ne constitue pas un enjeu politique qui pourrait faire qu'on traite avec lui comme si c'était un interlocuteur. Alors, les dangers que moi je perçois dans cette affaire, il ne faut pas que cette guerre-là constitue une porte de sortie à Kunda. Parce que je vous dis que si la guerre dure, ce n'est pas, moi je veux qu'on engage en fait toutes les forces Alors, qu'on les fasse plus rapidement et qu'on mate la situation. Parce que si ça dure, ça se prolonge dans le temps, on sera obligé finalement de négocier avec lui. Et à ces conditions, en ce moment-là, on lui aura offert une porte de sortie, il aura été réutilisé parce qu'il deviendra en fait un acteur. Et que lorsque Benoît parle des principautés, ça signifie déjà qu'un monsieur est autonome, il dirige en fait une contrée, un État qui n'a pas son nom.
Ah, donc vous parlez, vous privilégiez une solution militaire, mais très courte.
C'est l'essentiel.
Professeur Bioya, vous avez dit vous privilégiez une solution militaire, mais très courte.
Oui, dans le temps, et je pense que Benoît ne contredirait pas. Il faut que ça soit une action assez ferme, assez rapide et courte dans le temps. Mais si on s'enlise, on finira par négocier avec lui, et monsieur sera devenu très fort, et ça va en fait, ça ne va pas apporter de dividendes politiques au gouvernement de Kinshasa. Et ça risque en fait d'être, comme tu appelais ça, une véritable épreuve, et dont on ne sait pas exactement ce qu'en seront les effets à la langue. Parce que la guerre, comme cette guerre ici, cette logique de guerre peut produire des effets pervers que l'on ne connaît pas maintenant, si elle dure. C'est pourquoi je ne voudrais pas qu'elle dure. Alors, si les stratèges de FARDC trouvent que ça pourra durer, mais alors là, ils seront obligés de privilégier une autre voie, mais qui serait une voie humiliante pour la République.
Alors, colonel Edengra, vous avez entendu le professeur Philippe Bioya qui dit que la solution militaire devra être la plus courte possible et efficace. Qu'est-ce que vous dites?
Tout à fait. Il s'agit d'une guerre éclair et chirurgicale. Je crois que je l'ai dit. Cela veut dire qu'il faut rassembler les moyens de guerre. Il s'agit bien de guerre, même si c'est une guerre asymétrique, comme dit avec pertinence Philippe Bioya. C'est une guerre quand même qui, elle, doit être menée avec le maximum de moyens pour un impact rapide et dissuasif. Et ça voudrait dire qu'il faut, comme je l'ai dit avant, réviser la tactique de combat qu'il faut mener sur place. Et M. Bioya, professeur Bioya, a parlé de certains accompagnements politico-stratégiques. C'est vrai, parce que je sais de quoi il parle quand il dit cela. Cela est vrai, mais il ne faudrait pas que l'action militaire soit subordonnée à la réussite d'une action stratégique qui pourrait, elle, être en fait une sorte d'obstacle à la reddition de M. Kunda. Parce que les intérêts politiques et stratégiques de d'autres partenaires de M. Kunda pourraient être que on n'ait jamais une solution militaire à cette question et que jamais on ait le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et particulièrement sur cette principauté dirigée par M. Kunda.
Alors nous allons revenir à vous, colonel Ebenga, mais une question de précision. Monsieur professeur Philippe Bioya, que viendrait faire alors l'action diplomatique si la guerre aura résolu quelque chose?
Mais l'action diplomatique intervient d'abord parce qu'il s'agit d'une guerre. Parce que la guerre, on l'a définie depuis Machiavel comme étant la poursuite de la politique par d'autres moyens. C'est que par définition, la guerre oppose des entités autonomes aux intérêts divergents. Mais or, ici, Nous ne devons pas être en situation vraiment de guerre au sens exclu du mot. Mais puisque nous y sommes, ça signifie que Nkunda, c'est la partie cachée de l'iceberg, comme on dit. Ça doit être en fait la partie visible d'une grande inconnue ou d'une grande réalité que nous devons maîtriser. Alors, je crois que la dynamique diplomatique et stratégique nous permettrait effectivement d'éliminer tout ce qu'il peut avoir comme obstacle, comme prétexte à la non-reddition de Nkunda. Et je pense qu'avec Jacques, nous sommes ensemble dans la façon de définir les finalités de l'opération militaire, mais nous divergeons quant au voie d'y parvenir. Je pense que l'action militaire aveugle, qui ne serait que concentrer la force, qui ne tiennent pas compte en fait de quel secours, de quel service, de quelle alliance un courant pourrait disposer, ça peut constituer un piège. Alors si ça constitue un piège, si ça devient un défi, et que nous y perdions la face, mais nous sommes cuits. Et nous allons permettre la formation de l'État, et je pense que Jacques, il a dans son verbe l'avenir lorsqu'il parle de principauté. La principauté, elle n'est pas appelée à disparaître demain, elle risque de durer. Alors si ça devient un défi permanent, c'est que nous aurons perdu. Et quand on aura perdu, ça sera trop tard.
Nous avions écouté dans le reportage de notre confrère à Goma des craintes aussi sur les relations entre communautés. Colonel Ebenga, est-ce que, par exemple, dans l'action militaire, les FRDC sauront-elles faire la différence entre les militaires insurgés fidèles à Laurent Kunda et leurs familles?
Évidemment, les militaires FRDC ne vont pas au combat contre les civils. Les familles, ce sont des civils. Les civils ont l'armée. S'ils se trouvent face à une résistance armée, évidemment, il faudra réduire cette résistance par les voies militaires, par les voies des armes. Donc, je crois que la distinction est nette et j'espère tout simplement que M. Kunda ne va pas se servir de la population civile comme bouclier humain pour résister à l'action des FARDC. Donc, c'est cela qui pourrait être la crainte, mais écoutez, il dit qu'il protège cette population. Je ne vois pas comment il pourrait en faire également son bouclier. Autrement, alors, il n'aurait pas raison de prendre les armes pour protéger cette population, comme il le dit.
Professeur Bioya, quand vous parlez aussi des résolutions politiques et diplomatiques, est-ce que cet aspect est pris en compte?
Pardon?
L'aspect évoqué sur les craintes des relations entre communautés, est-ce que vous prenez ça en compte quand vous parlez des résolutions diplomatiques?
Absolument, parce que je pense que c'est le gouvernement de Kinshasa qui a la responsabilité de la protection en fait des amis de ce point-là. Et que lorsque un individu, à quelque titre que ce soit, se substitue à l'État et se riche pratiquement en pouvoir, et je crois que là, lorsqu'on n'arrive pas, comme je pense, à le mater, on doit chercher en fait d'où vient sa force. Je tiens absolument compte de ça, et parce que j'ai comme l'impression que l'homme est déjà dans cette stratégie d'utiliser les ressortissants de chez lui comme en fait des boucliers humains. Parce que c'est tout ça, il faut éviter que ça dure, parce que si ça dure, ça deviendra en fait une cause. Et ces gens diront qu'ils sont peut-être discriminés et ils ont besoin, comme par le passé, d'employer les armes. Et c'est déjà connu, ça. On a déjà vu ça, non? Il y a eu des guerres civiles, il y a eu des rébellions à l'Est. Et la raison, c'était quoi? C'était exactement la cause de la population. Alors, je crois qu'il ne faut pas qu'on réduise ça maintenant, alors que nous pensons avoir résolu tout ce problème-là et qu'on a maintenant un pouvoir qui est ici, en fait, de ce processus où chacun pensait qu'il pouvait s'en remettre à lui-même ou à son dire à ses voisins pour se défendre.
Alors, il y a une autre question, c'est celle même du statut de celui qui conduit les insurgés. Laurent Kunda, il est sous mandat d'arrêt international. Est-ce que ce ne serait pas lui donner aussi beaucoup de valeur en privilégiant, pas en privilégiant, mais en combinant une action militaire à une action diplomatique?
Je n'ai pas dit qu'on va faire la diplomatie avec lui parce que lui n'a pas de diplomatie. J'ai dit que nous sommes en situation de guerre asymétrique. Dans la guerre asymétrique, on a un gouvernement qui se bat parfois avec une ONG ou avec une personne. Alors, qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Le gouvernement doit s'assurer qu'il n'y a aucun autre gouvernement au monde qui a pris l'action de cet insurgé. Le gouvernement doit être sûr parfaitement que l'équipe se défend seule avant, en fait, de lancer une action de grande envergure en s'assurant que si jamais le type cherchait à se réfugier chez le voisin et que le voisin ne trouverait pas en cela un prétexte si jamais par erreur ou par mégarde nos forces débordaient un peu ou si des obus de chez nous allaient de l'autre côté pour prétexter quoi que ce soit qui devienne finalement un casus belli. C'est cela. La diplomatie, on la ferait pas avec Kunda, on fait la diplomatie avec ceux qui ont intérêt à voir en fait la région de Grand Lac être stable. Et ceux qui coopèrent avec la RDC et qui vont bientôt signer des pactes de stabilité dans le cadre de la conférence de Grand Lac. Ces gens-là, on ne doit pas, en fait, les laisser pour compte. On doit savoir que la proximité jouant, ils peuvent avoir, en fait, un rôle à soutenir notre politique ou à nous permettre de conduire notre guerre comme nous pensons le faire de façon à aboutir à des résultats dans un temps assez court.
Monsieur Jacques Ebenga, très rapidement, est-ce qu'il faudra négliger le statut même de celui qui conduit les insurgés, donc le général déchu, Laurent Kunda?
Négliger son statut, il n'a plus de statut militaire, il a un statut d'insurgé aujourd'hui, il a un statut de wanted, comme on dit en anglais, de recherché par toutes les polices du monde, donc son statut est, je crois, ficelé. Faut-il le renégocier pour qu'il redevienne un citoyen, un bon citoyen, accepté par tous? Là est la question. Alors là, on tombe dans le règne de l'impunité et de la récréation, comme on dit certains auditeurs. Mais comme disait, j'appuie quelque part sur les propos de mon ami Philippe Bouya quand il dit que il y a comme une tentative d'être couvert, que Kounda soit couvert par certains partis étrangères. Et c'est vrai quand on voit que il cherche un couloir à travers Bounagana pour avoir une sortie vers certains pays de l'Est. C'est vrai. Mais il appartient à l'armée d'organiser maintenant une approche globale, c'est-à-dire l'approche régionale. Donc tactique d'abord au niveau du terrain d'opération et une approche stratégique globale qui va consister à empêcher justement qu'un couloir, qu'un cordon ombilical s'instaure entre ce général insurgé avec les pays voisins. Et cela doit faire partie des opérations militaires. La négociation politico-diplomatique, à mon avis, a fait ses limites. Je ne sais pas, on va renégocier combien de fois cela, quand on sait bien qu'il y a des affinités qui existent entre lui et certains de ses anciens mentors à l'étranger.
Mmh. Alors, merci beaucoup. Nous allons encore retrouver Aimé Seya pour les avis des auditeurs qui suivent toutes vos opinions et toutes vos analyses.
Oui, genre cette deuxième vague concerne les auditeurs qui préconisent les négociations avec Laurent Kounda. Nous avons par exemple Jean-Paul à partir de Guémena, d'Équateur, qui dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Il faut donc d'abord privilégier les négociations avec Kounda. Henri Stéphane Baye pense que le président doit entreprendre une négociation avec Kounda s'il veut réaliser sa promesse envers le peuple congolais. Eric Yangasenge à Kisangani dans la province orientale trouve qu'il n'y a aucune autre solution que politique car les contre-offensives militaires lancées par les FRDC ont échoué. Joe Mas depuis la commune de Njili à Kinshasa trouve que le président de la République doit privilégier une solution pacifique à la crise qui se déroule à l'Est s'il veut préserver son titre d'artisan de la paix. Paulin Moulenga à Kananga au Kasaï occidental trouve que pour résoudre le conflit avec Laurent Kounda, il est souhaitable d'envisager une solution politique. Moïse, depuis Bukavu au sud Kivu, trouve que le gouvernement méprise Kounda. Il poursuit, Kounda n'est pas seul il n'est pas seul, il a un appui. Il faut négocier, c'est l'essentiel car notre armée est très corrompue du supérieur au subalterne. Il y a encore un autre Jean-Jacques de Goma. Il dit que Laurent Kounda n'est pas comme Oussama Ben Laden qui demeure invisible. Il y a des gens qui viennent de Kinshasa pour le rencontrer. Sans Laurent Kounda, Kabila ne peut pas travailler.
Voilà, ce sont là les quelques réactions des auditeurs. Colonel Ebenga, très rapidement, nous tendons vers la fin de cette émission. Quelle est votre réaction?
Bon, j'ai entendu beaucoup de réactions défaitistes dans ce propos, notamment l'auditeur de Guémena. En fait, toutes ces réactions préconisent de renoncer à la force et d'accepter la reddition face à un mutin, face à un insurgé, fut-il commandant d'une brigade. Donc ce serait la capitulation tout simplement devant cet insurgé. Alors là, nous renonçons à l'autorité de l'État qu'on veut rétablir, nous renonçons à tous les beaux principes de la souveraineté, parce que là, on aura été tout simplement mis en déroute par une petite unité d'une brigade. Ça, c'est très malheureux. Je crois qu'il faut renforcer l'armée. Les griefs qu'on fait à l'armée doivent être corrigés pour que celle-ci soit à même d'emmener M. Kounda à la reddition.
Et de remplir son devoir.
Le devoir de qui?
Et que l'armée remplisse son devoir.
Le gouvernement, l'État congolais doit remplir son devoir.
Alors, professeur Bioya, vous avez écouté aussi ces auditeurs. Est-ce qu'ils vous réconfortent dans votre position de recherche diplomatique régionale?
Non, mais je ne sais pas qu'ils me réconfortent, mais ils me permettent de dégager une dimension politique qu'on allait passer sous silence. C'est la dimension qui réduit le combat au RCD. Parce que vous avez dit au début de l'émission que le RCD, notamment Roubaix, demandait une solution politique. Et là, je voudrais peut-être poser la question à la lumière de ces interventions. Est-ce qu'un Kounda a rompu complètement avec l'RCD ou l'RCD s'est-il interdit, s'interdit-il d'instrumentaliser un Kounda?
Excellente question, Philippe.
Si Kounda sert à reconditionner autrement le RCD en cas
Malheureusement, nous ne pourrons pas vous laisser poursuivre, professeur Bioya. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Aujourd'hui, donc, nous avons parlé des solutions à trouver face au problème Kounda. Nous avions dans ces studios Jacques Ebenga, expert militaire et colonel à la retraite. Merci beaucoup à nos deux invités, à Philippe Bioya qui était en ligne depuis Lubumbashi. Merci aussi à ceux qui ont participé à l'élaboration de cette émission. Pour ceux qui ont raté ce soir la rediffusion en FM, c'est demain à 4h45 heure de Kinshasa, donc une heure de plus à l'est du pays. Vous pouvez nous réécouter aussi sur 11 690 kHz, donc en onde courte de 5h à 7h heure de la capitale. Retrouvez-nous demain et bonne suite de programme sur Radio Okapi.